vous suit.
Voici les titres du journal.
La bourgeoisie de Vouvry a accepté la création d'une réserve forestière à Tanay. Destinée à dynamiser la biodiversité, elle verra le jour le 1er janvier 2023. Découvrir la région du Pays d'en Haut dans un univers nocturne, c'est le programme de la 16e nuit de la rando qui aura lieu du 16 au 17 juillet. En cyclisme, le peloton du Tour de France retrouve aujourd'hui un parcours moins accidenté après 4 journées dans les Alpes. Et en football, le FC Sion a fait le ménage pour aborder la nouvelle saison dans les meilleures conditions.
Et pour la météo du soleil et encore du soleil, la météo complète, c'est à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Thierry Nicolet. Bonjour Thierry.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Le tir d'un loup a été ordonné au Val-d'Illier dans la région de Chézery-Fontaine-Blanche. Le conseiller d'État Frédéric Favre a pris cette décision après avoir demandé une analyse de la situation au service de l'État concerné. Le service de la chasse, de la pêche et de la faune et le service de l'agriculture ont dénombré 12 animaux de rente tués en situation protégée. Selon l'ordonnance révisée de la loi fédérale sur la chasse, les conditions sont réunies pour ordonner le tir. La décision sera publiée dans le bulletin officiel du vendredi 22 juillet, date à partir de laquelle l'autorisation sera valable 60 jours.
Un véritable sanctuaire en faveur de la biodiversité sera créé à Tanay dès le 1er janvier 2023.
Ce ne sont pas moins de 225 hectares de réserves forestières qui vont voir le jour. Propriétaire de ces forêts, la bourgeoisie de Vouvry a accepté une convention avec le canton du Valais pour une durée de 50 ans. La région de Tanay, classée parmi les sites protégés, abritera en réalité deux réserves forestières. Gilles Delalloy, garde forestier pour la commune de Vouvry, est chef du projet.
Nous aurons deux zones distinctes, la zone qui sera au nord-est du lac, où nous trouvons un pâturage boisé d'épicéas. Différentes autres mesures pourront être faites, mais il y aura bien sûr une zone qui sera totalement exempte d'intervention. Et ensuite, de l'autre côté du lac, donc plutôt dans le secteur en direction de l'eau, où il y aura très peu de mesures qui seront faites, où là, on va vraiment laisser la forêt se développer pour elle-même.
Le triage forestier aura la possibilité d'intervenir si un danger urgent guette, mais également pour une raison pragmatique, que plus terre à terre. On retrouve Gilles Delalloy.
Justement, pour ne pas impacter les habitants de Tanay, c'est de pouvoir leur garantir la fourniture de bois de chauffage pour les chalets, afin d'éviter que les gens doivent amener du bois depuis la plaine, ce qui serait dommage avec le volume de bois qu'il y a sur le secteur de Tanay.
C'était un sujet signé Guillaume Abbé. Une Valaisanne de 82 ans a été heurtée par une pierre alors qu'elle était assise sur une chaise dans son jardin, mercredi vers 10h45 à Teche, en Haut-Valais. Alertée, les secours n'ont pu que constater son décès. Le ministère public a ouvert une instruction.
Une randonnée sous un ciel étoilé avec une halte gourmande.
C'est le programme de la 16e nuit de la rando à Châteaudet qui aura lieu ce week-end. À l'occasion de la nuit suisse de la randonnée, Pays d'en Haut Région propose un nouveau parcours à la découverte du sommet de la Lettmer au clair de lune. L'excursion, qui est encadrée par un accompagnateur de moyenne montagne certifié, se veut ouverte à un large public. Les explications de Romane de Sibenthal, organisatrice de l'événement.
La marche est adaptée à tous, elle est entre 2h et 3h de temps. On a un certain dénivelé d'environ 220 mètres de dénivelé positif, et puis ensuite 640 mètres environ de dénivelé négatif pour rejoindre directement la buvette.
Suisse Rando le dit, randonnée en montagne, c'est pas se balader. Y a-t-il en effet des risques à prendre en compte pour cette marche notamment, ou bien des capacités spécifiques à avoir ?
Non, pas spécialement. Il y a toujours des risques, bien sûr, en randonnée. Mais disons que cette randonnée n'a pas de coin escarpé ni quoi que ce soit. C'est vraiment une randonnée, je dirais pas simple, mais adaptée à tous.
Des propos recueillis par Julie Gay. À noter que l'inscription à la nuit de la randonnée est obligatoire. Les intéressés peuvent s'inscrire en ligne jusqu'au vendredi 15 juillet. CFF Cargo roulera avec des locomotives Siemens Mobility dès 2024. La flotte actuelle atteint la fin de son cycle de vie économique et technique et un renouvellement est essentiel. Les 35 nouvelles locomotives garantiront une forte disponibilité de la flotte pour une durée de 8 ans, selon la compagnie ferroviaire. CFF Cargo assure un septième des transports de marchandises en Suisse. Elle achemine 185 000 tonnes de marchandises par jour pour ses clients sur le territoire helvétique. Il en résulte une économie de 15 000 transports par camion chaque jour et de 460 000 tonnes de CO2 chaque année.
Ce début d'été ne rime pas avec sérénité pour certains conseillers fédéraux.
Après les affaires récentes qui éclaboussent le socialiste Alain Berset, c'est au tour du bras droit du libéral radical Ignacio Cassis d'être dans la tourmente. Secrétaire général du département des affaires étrangères, Markus Seiler est sous enquête judiciaire. Les précisions de notre correspondant à Berne, Frédéric Nejad Toulami.
On en sait un peu plus ce matin sur ces hauts fonctionnaires pris dans la tourmente judiciaire. Outre Peter Launer, ancien bras droit d'Alain Berset, le nom de Markus Seiler vient d'être révélé. Secrétaire général du DFAE, il est lui aussi soupçonné d'avoir violé son secret de fonction. Le procureur extraordinaire nommé a ouvert une procédure pénale contre lui, ainsi qu'un autre haut fonctionnaire du département du conseiller fédéral Cassis. Tout remonte au mois de novembre l'an passé. Les commissions de gestion des deux chambres fédérales avaient rendu leur conclusion d'enquête sur le scandale Crypto AG. Il s'agit de cette société basée à Zoug, spécialisée dans les systèmes de communication cryptés vendus pendant des décennies à des gouvernements. Les services secrets des États-Unis et d'Allemagne de l'Ouest avaient espionné ces États grâce à Crypto. L'enquête parlementaire conclut que la Confédération, une fois avertie de ces faits, n'avait pas réagi. Contrairement à l'ex-bras droit d'Alain Berset, Markus Seiler n'a lui pas été placé en garde à vue et ses appareils électroniques n'ont pas été confisqués.
C'était notre correspondant parlementaire Frédéric Nejat-Toulamy. Et précisons encore que toutes les personnes inculpées dans cette affaire bénéficient de la présomption d'innocence. Plus de 600 nouveaux lacs glaciaires pourraient voir le jour en Suisse au cours du siècle. Des scientifiques de l'ETH Zurich et de l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage se sont basés sur la probable future fonte des glaciers. Selon leur publication, 380 nouveaux lacs se créeront d'ici la fin du siècle si des mesures importantes sont prises pour protéger le climat. En cas de scénario pessimiste, le chiffre s'élèverait à 655. Les nouveaux lacs se situeraient majoritairement dans le bassin versant du Rhône.
À l'étranger, la situation est toujours défavorable en Gironde, où les pompiers affrontent deux incendies de forêt.
Ceux-ci ont ravagé au moins 7300 hectares. Depuis mardi, 10 000 personnes ont été évacuées de campings proches de la dune du Pila et de la base militaire de Cazaux. Ces feux qui n'ont pas fait de victimes se sont déclenchés au début de l'épisode de canicule qui touche la France depuis lundi, principalement dans l'ouest et le sud. La Gironde est maintenue en vigilance orange canicule par Météo France, comme 10 autres départements. L'Union européenne va viser les exportations d'or russe dans son prochain train de sanctions, comme l'avaient décidé les pays du G7 fin juin. C'est ce qu'a annoncé ce matin le commissaire européen Maros Šefčovič lors d'une réunion des ministres des Affaires européennes à Prague. L'UE va aussi chercher à fermer les échappatoires pour ceux qui contournent les précédents trains de sanctions pris contre la Russie, après avoir déjà adopté 6 paquets de sanctions, dont un embargo sur l'essentiel du pétrole russe d'ici la fin de l'année.
L'Iran s'est déclaré ce matin encore plus déterminé à conserver ses intérêts dans tout accord sur le dossier nucléaire.
Cela après la signature hier d'un partenariat stratégique israélo-américain face à Téhéran lors de la visite du président américain Joe Biden en Israël. L'attitude à adopter vis-à-vis de Téhéran est une source de flottement entre les États-Unis et Israël. Washington souhaiterait tenter la voie diplomatique, tandis que l'État hébreu est adepte de la ligne dure. Le Premier ministre du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a été investi aujourd'hui président par intérim en remplacement de Gotabaya Rajapaksa, qui a démissionné après sa fuite en exil. Le Parlement sri lankais élira mercredi prochain un député pour succéder à l'ancien président jusqu'à la fin du mandat, c'est-à-dire novembre 2024. Gotabaya Rajapaksa avait fui samedi dernier sa résidence, prise d'assaut par les manifestants, lui reprochant sa mauvaise gestion au moment où le Sri Lanka traverse la plus grave crise économique de son histoire. Après avoir réussi à sortir de son pays mercredi pour aller aux Maldives, il a pris hier un avion pour Singapour, d'où il a envoyé sa lettre de démission. Il est le premier chef de l'État à démissionner depuis que le Sri Lanka a opté pour un régime présidentiel en 1978. On ouvre notre page sport avec du cyclisme. Le peloton du Tour de France en a terminé avec les Alpes. Après deux étapes très accidentées qui ont bouleversé le sommet du classement général, les coureurs retrouvent aujourd'hui une route plus plate. La 13e étape emmènera la grande boucle du Bourg d'Oisan à Saint-Étienne sur un parcours de 193 km. Pour les favoris, la lutte pour la victoire finale devrait connaître une accalmie temporaire et ce sera aussi l'occasion pour les attaquants des derniers jours de récupérer des forces. Chris Froome est notamment concerné. À la peine depuis son grave accident il y a 3 ans, le Britannique a vécu une petite résurrection hier avec sa 3e place à l'Alpe d'Huez. Les impressions de Chris Froome.
Je n'ai absolument aucun regret. J'ai tout laissé sur la route aujourd'hui. Je n'aurais pas pu donner plus. Tom Pidcock et Louis Menkis étaient les plus forts dans l'échappée. Bravo à eux. Merci à mes coéquipiers de m'avoir aidé. À mon équipe d'avoir cru en moi et de m'avoir donné cette chance. J'ai fait beaucoup de chemin depuis mon grave accident il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est un pas de plus dans ma progression pour retrouver ma forme d'antan.
Des propos recueillis par notre confrère de la RTS, Jérôme Janin. A noter que le français Warren Barguil ne prendra pas le départ aujourd'hui de la 13e étape du Tour de France. Il a été testé positif au Covid-19.
En football, le FC Sion veut retrouver des couleurs cette saison.
À deux jours de sa rentrée sur le terrain du FC Lugano, la formation valaisanne n'a qu'un objectif, éviter de se retrouver dans la même situation que les années précédentes. Contraints de lutter contre la relégation jusqu'à la dernière journée, les Sédunois ont envie de retrouver du mordant. Pour ce faire, les dirigeants ont décidé de dégraisser. 18 joueurs ont ainsi été priés de partir et pour le moment, seuls 5 arrivés ont été annoncés. Numa Lavanchi fait partie des nouvelles têtes. Transféré de Lugano, le défenseur vaudois est en période d'acclimatation. Une période qui se déroule sans accroc, grâce notamment à sa bonne relation avec l'entraîneur Paolo Tramezzani. Les précisions de Numa Lavanchi.
C'est vrai qu'on échange, pas mal. Je pense que c'est un coach qui a énormément à donner, je l'ai déjà dit. C'est vraiment un coach qui peut donner énormément, qui donne énormément. Et si on fait les choses bien en tant qu'équipe, parce qu'à la fin c'est ça la vérité. La vérité c'est les 11 plus les 5 qui rentrent. Donc, plus ceux qui ne rentrent pas évidemment, on va les oublier. Ça c'est clair que c'est aussi eux qui font ce groupe. Mais voilà, si on fait les choses. Si on fait les choses comme il faut, je pense qu'on a une belle carte à jouer, une bonne saison à faire.
Vous avez mis en avant, dans ce qui vous a séduit, hein, de belles perspectives. En l'occurrence, c'est quoi ces belles perspectives qui vous ont permis de venir ici à Sion ?
Non, mais c'est vrai que voilà, l'exemple du FC Zurich l'année passée, c'est beau, c'est motivant. Et puis la coupe, franchement, tu gagnes quoi, 7 matchs, 8 matchs, et puis t'as un titre, quoi. Suivant le calendrier que tu as aussi, tu peux te retrouver voilà, rapidement en quart, demi, et puis te dire ok, bah, on va chercher un titre. Donc non, je pense que dans un championnat à 10, alors l'inconvénient c'est que c'est hyper serré, mais c'est aussi un avantage vu que tu peux tout d'un coup pouvoir aller gratter quelque chose un peu plus haut.
Numa Lavanchi au micro de Julien Traxel. Le premier match du FC Sion dans cette saison 2022-2023 de Super League est donc prévu dimanche à 16h30 sur le terrain du FC Lugano, l'ancienne équipe du joueur vaudois.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.